Donc, on va lire, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean. Je suis en train de constater que vous allez devenir des experts de l'Évangile de Jean. Vous vous penchez beaucoup sur l'Évangile de Jean. Donc, j'aimerais lire avec vous à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre de cet Évangile. Donc Jean nous écrit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeura que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa. » Est-ce que j'ai mal donné la référence?
Ben, je pense qu'ils n'ont pas entendu
la verset. Ah, excusez. Ben, écoutez. Oui, 2:11. Mais là, on est rendu au verset 15. Je m'excuse si j'ai pas attendu. Habituellement, j'attends que ça arrête de foisonner. Jusqu'à ce qu'une nouvelle génération fait en sorte qu'avec le pitonnage, on n'entende plus froissonner, mais j'aime beaucoup entendre les pages tourner. J'aurais dû attendre, je m'en excuse. Donc, on lit au verset 15, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables. » Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais il parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Donc, après les noces de Cana, donc ça, là, on le voit bien au verset 11, là, on se rappelle que Jésus a changé l'eau en vin, changé de l'eau en excellent vin. On se rappelle aussi, parce que je vous avais fait une petite introduction, qu'il y a 7 signes ou 7 miracles dans l'Évangile de Jean. Donc, le premier signe ou le premier miracle, c'est l'eau changée en vin. Après que Jésus ait accompli ce premier signe-là, il part avec sa mère et ses disciples et descend à Capernaum. Mais il demeure peu de temps là, Jean nous dit, parce que bientôt c'est la fête de la Pâque à Jérusalem, puis il veut être là à la fête de la Pâque. Donc, juste pour vous rappeler, il y avait 3 occasions que Dieu demandait à son peuple de le fêter ou de fêter, d'avoir une fête à l'Éternel. Et une de ces occasions-là, puis certainement l'occasion la plus populaire ou l'endroit où est-ce qu'il y avait le plus de gens qui venaient, c'était à la fête de la Pâque. La fête de la Pâque était suivie de la fête des pains sans levain. Donc, quand on lit les Écritures, des fois, on parle de la fête des pains sans levain, des fois, on parle de la fête de la Pâque, mais c'est le même moment. Hein, la Pâque était suivie de la fête des pains sans levain. Luc nous dit que les parents de Jésus allaient à chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Donc, ils s'y rendaient à cette fête-là. Et à 12 ans, ils amènent le Seigneur Jésus avec eux. C'était l'âge obligatoire pour aller à la Pâque. Donc, à partir de 12 ans, on peut être assuré que le Seigneur Jésus, à toutes les années, allait à la fête de la Pâque. Donc, ce n'est pas une usité que maintenant il s'y rend avec ses disciples, parce qu'il y allait tout le temps à la fête de la Pâque. Mais là, c'est une année tout à fait particulière et spéciale. On situe cette année-là en l'an 28, mais là, il montre à la fête de la Pâque parce que son heure est venue de débuter son ministère public. On se rappelle, lorsque le Seigneur Jésus change l'eau en vin, il dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » Son heure n'était pas encore venue de se dévoiler publiquement et de commencer son ministère public. Son premier signe, son premier miracle, c'est pour ses intimes, c'est pour ses disciples. Mais maintenant, il va se manifester à Israël, il va commencer son ministère public parce que son heure est venue. C'est intéressant parce qu'à l'âge de 12 ans, on se rappelle aussi dans l'Évangile de Luc qu'à un moment donné, ses parents retournent et ils pensent que le Seigneur est avec des parents, mais finalement, ils réalisent qu'ils ne sont pas avec eux, et que le Seigneur n'est pas avec eux, puis ils retournent le chercher, puis là, ils grondent un peu, tu sais, du fait qu'il n'ait pas été là. Puis le Seigneur leur répond, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Déjà à 12 ans, il savait qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. Mais maintenant, dans le texte qu'on a lu ce matin, l'heure est venue, voilà le temps de s'occuper des affaires de son Père. Maintenant, une des démonstrations claires qu'on a dans ce qu'on a lu ce matin du Seigneur Jésus qui va dans le temple, c'est que tout au début de son ministère, il rencontre l'incrédulité des Juifs. Ce n'est pas que les Juifs se posent des questions puis finissent par ne plus croire. Déjà au début de son ministère, c'est clair qu'on n'accepte pas son affirmation qu'il est le Messie, puis qu'on est incrédule. Au verset 14 et 17, il confronte l'incrédulité des Juifs en nettoyant le temple, hein, en leur disant, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ce n'est pas que les Juifs, tout d'un coup, deviennent incrédules, c'est que dans leur pratique, même, ils démontrent leur incrédulité vis-à-vis de Dieu parce que finalement, ils vont prendre le temple pour une autre raison que la raison qu'elle devrait être, comme on va voir. Dans les versets 18 à 22, il va confronter leur incrédulité parce que les Juifs. Confondre leur incrédulité parce que les Juifs vont lui dire ben, montre-nous un signe, montre-nous quelque chose, un miracle, tu sais, qui fait en sorte que. Tu as raison de faire de ce que tu fais. Puis il va les confondre dans leur incrédulité. Et finalement, il va confirmer l'incrédulité. Ce passage-là fait comme sceller tout ce qu'on va voir dans l'Évangile de Jean, que le Seigneur Jésus, tout au début de son ministère, va confirmer l'incrédulité des Juifs parce qu'ils ne veulent pas croire en son nom. Donc, c'est ça qu'on va voir. Confronter, confondre et confirmer. Il va confronter leur incrédulité. Pendant la fête des Juifs, il y avait des milliers de pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. On pense qu'il y avait à cette époque-là environ 200 000 habitants à Jérusalem, puis que lorsqu'il y avait la fête de la Pâque, la population montait à 1 million. Il y avait 5 fois plus de personnes dans la ville de Jérusalem pour la fête de la Pâque avec tous les pèlerins. Et on montait à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem était bâtie sur une hauteur, sur un promontoire. C'était la fête principale des Juifs. Et on se rappelait ce que Dieu avait fait lorsqu'il avait délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Hein. Lorsque Dieu a délivré son peuple, il a fait des plaies. Hein. Il a attaqué finalement les dieux des Juifs hein, par des plaies, diverses plaies. Et la dernière de ces plaies-là qu'il a faites, c'est que tous les premiers-nés des hommes et des bêtes ont été mis à mort. Maintenant, il a dit à son peuple qu'il devait tuer un agneau, prendre le sang de l'agneau, le mettre sur le linteau, donc le haut de la porte et les montants de la porte. Et puis, lorsque l'ange allait passer, puis qu'il allait voir ce sang-là, bien, il allait préserver le premier-né dans cette maison-là. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et les premiers-nés des Juifs ont été préservés. Donc, à toutes les années, on allait à Jérusalem pour se rappeler ça et pour sacrifier un agneau aussi en commémoration de ce que Dieu avait fait puis la signification. Maintenant, il y avait des marchands d'animaux dans le temple. Et c'était pratique dans un sens parce qu'on voyageait de loin et traîner notre animal ou nos animaux qu'on allait offrir en sacrifice, ça allait ralentir le pas, puis ça allait être plus difficile. Donc, on avait les marchands qui vendaient les animaux, qui rendaient un service dans un sens aux pèlerins. L'autre service qu'ils rendaient aussi, c'est qu'on se rappelle dans l'Ancien Testament qu'on ne pouvait pas offrir n'importe quel agneau. Ça devait être un agneau sans défaut et sans tache. Donc, on peut être assuré que les marchands vendaient des agneaux pré-approuvés par les sacrificateurs. Ils n'allaient pas vendre un agneau que les sacrificateurs allaient rejeter. Fait que ça, c'était pratique aussi, hein, parce que si on avait notre animal était pas correct, on l'avait amené pour rien. Il y avait aussi les changeurs de monnaie, parce qu'on avait des gens qui venaient de partout, donc il y avait différentes monnaies, puis ça nous prenait de monnaie pour acheter les animaux, ça nous prenait de la monnaie aussi, parce que dans l'Ancien Testament, c'était dit qu'on devait payer l'impôt du temple, le demi-sicle, qu'on devait payer aussi lors de la fête de la Pâque. Et tous les Juifs consciencieux de 20 ans et plus devaient s'acquitter de cette taxe-là. Bon, on nous dit, puis moi je vous donne l'information, qu'on utilisait le demi-statère de Tyr parce que c'était une monnaie qui était riche en argent. Donc, on utilisait cette monnaie-là dans le temple. Et puis, on nous dit aussi que souvent, ben la demi-sicle, on se mettait à deux, puis on payait pour deux avec un. On nous dit aussi que par le passé, les animaux n'étaient pas dans le temple. On prenait un endroit de l'autre côté de la vallée de Cédron, puis là, il y avait les marchands qui étaient là. Mais avec le temps, ils se sont déplacés, puis se sont amenés dans le temple. Naturellement, on peut penser que c'était avec la complicité des souverains sacrificateurs, tout ça, mais ils se sont déplacés plus proche de l'endroit où est-ce que c'était nécessaire d'avoir les agneaux. Maintenant, ils étaient dans le temple. Qu'est-ce qu'on entend par le temple? Bien, juste, je vais vous donner une image rapide de ce qu'était le temple. Il y avait le sanctuaire. Le sanctuaire, c'était un bâtiment où est-ce qu'il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y avait aussi d'autres constructions. Le temple, c'était assez vaste. De chaque côté du sanctuaire, il y avait la cour des sacrificateurs. Un peu autour du sanctuaire, puis au-delà de la cour des sacrificateurs, il y avait la cour des hommes. En face de la cour des hommes, il y avait la cour des femmes. Et tout autour de ça, il y avait la cour des gentils, ou des non-juifs, qui étaient séparés par une barrière qu'on appelait le soreg, une balustrade, et puis sur cette balustrade-là, il y avait des indications qui disaient que c'était interdit à un non-juif, et un juif qui n'était pas purifié, qui n'était pas pur, de traverser cette barrière-là. Et pour les païens, pour les non-juifs, c'était aussi inscrit clairement. Pour ceux qui n'étaient pas purifiés, je ne peux pas affirmer, mais c'était inscrit clairement que si on le traversait, on pouvait être mis à mort. Donc, voici la situation quand le Seigneur Jésus vient, puis dans cet endroit-là, autour du sanctuaire, la cour des gentils, il y a tous les animaux qui sont là pour être vendus, toutes les tables des changeurs, là, on commerce dans cet endroit-là. Donc, le Seigneur, lorsqu'il arrive à Jérusalem et au temple, ben il se fait un fouet. Puis on peut penser qu'il y avait beaucoup de cordes qui traînaient. Quand on a des animaux, il faut les attacher, pas qu'ils se sauvent. Donc, on peut penser qu'il y avait quand même pas mal de cordes qui traînaient. Il en prend, il se fait un fouet, puis il chasse les animaux du temple avec ce fouet-là improvisé. Lorsqu'il arrive à la table des changeurs, il prend toute la monnaie, puis il fait tomber de la table, puis il renverse les tables des changeurs. Puis enfin, à ceux qui vendent des pigeons, qui devaient être, j'espère, dans des cages, pour ne pas les perdre, bien, il leur dit tout simplement, tu sais, d'enlever ces cages-là, puis d'enlever ces choses-là. Puis finalement, il leur dit pourquoi. Ils devaient faire ça. Il y a deux occasions où est-ce que Seigneur Jésus va chasser les vendeurs du temple, mais dans ces occasions-là, c'est les deux seules fois dans tous les évangiles où est-ce qu'on voit le Seigneur Jésus utiliser la force. Naturellement, lorsqu'on déplace des animaux, puis plusieurs d'entre vous savez qu'est-ce que c'est de vouloir déplacer un animal, c'est pas facile. Donc, c'est sûr qu'il a utilisé de la force, puis c'est les deux seules occasions dans toutes les Écritures, dans tous les évangiles, où est-ce qu'on voit le Seigneur utiliser de la force. Maintenant, certains vont dire que ça justifie de pouvoir piquer une sainte colère. On utilise le mot « sainte colère », tu sais. Mais j'ai de la misère à croire, puis rien ne nous dit dans le texte que le Seigneur Jésus s'est fâché. Mais c'est sûr qu'il a utilisé de la force pour déplacer ces animaux-là. Maintenant, il y a même des raisons qui pourraient nous faire croire que c'était que cette force-là était mesurée. Donc, pour ceux qui pensent que c'est correct de piquer une sainte colère, je pense que je vais vous démontrer que non, ce n'est pas ce que le texte nous dit ici, puis ce n'est pas la déduction qu'on devrait faire. Parce qu'on se rappelle que les Romains, c'est eux qui gouvernaient à l'endroit, puis lorsqu'il arrivait la fête de la Pâque, on comprend que quand ça passe de 200 000 à 1 million, les Romains étaient un peu sur les dents, puis là, ils ramenaient beaucoup d'effectifs, de garnisons, pour s'assurer que s'il se passe quelque chose, puis s'il y a une émeute ou quelque chose, ou n'importe quoi, on est prêt pour intervenir. Donc, l'intervention du Seigneur Jésus dans le temple n'a pas justifié que les Romains interviennent eux-mêmes. Donc, c'était une intervention, oui, qui s'est faite, mais rien ne nous dit que ça n'a pas créé d'émeute, puis que le Seigneur a agi d'une manière où est-ce que les Romains ont pensé que c'était démesuré, puis qu'il fallait qu'ils interviennent. Mais c'était énergétique, c'est sûr. C'était une intervention énergétique. Maintenant, le Seigneur va donner la raison de son intervention. « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Mais comment est-ce que les Juifs en sont arrivés, puis qu'est-ce qu'ils faisaient qui pour que le Seigneur Jésus leur dise « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Mais c'est en utilisant l'espace consacré aux pèlerins, parce qu'il y avait des non-juifs aussi qui venaient en pèlerinage, puis il y avait leur endroit, eux, pour venir faire leur pèlerinage. Donc, ils venaient à Jérusalem pour adorer Dieu, eux aussi. Puis Dieu avait pourvu cette place-là, mais finalement, ils l'ont perdue. Il n'était plus capable de venir adorer Dieu parce que là, il y avait dans cet endroit-là un certain nombre d'animaux. Puis on peut comprendre que quand on dit animaux, on entend des bruits. Les animaux font des bruits. Il y avait aussi une foule qui trafiquait dans le sens qui commerçait avec les changeurs. Donc, c'était pas juste qu'ils prenaient la place, mais ça faisait du bruit. C'était de la cacophonie. Donc, impossible pour les Juifs, pour les non-Juifs, pour les païens, de vraiment avoir une attitude d'adoration puis de prière. C'est plus possible à cause de ce que les Juifs avaient fait. Et plus tard, le Seigneur va leur reprocher que... excusez. Plus tard, le Seigneur, dans la deuxième, parce que le Seigneur va nettoyer le temple au moins deux fois. La deuxième fois, il va leur reprocher de faire des affaires frauduleuses, mais ici, ce n'est pas vraiment le reproche qu'il leur fait. Ce n'est pas nécessairement la nature ou la mauvaise manière qu'ils faisaient du commerce, mais juste le fait qu'ils prenaient l'endroit qui était réservé aux non-juifs, puis là, par ce fait même, les païens ne pouvaient plus venir adorer Dieu. Puis on se rappelle que le peuple juif aurait dû être une bénédiction pour tous les peuples. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, qui serait une bénédiction pour tous les peuples. Mais là, ils sont loin d'être une bénédiction pour tous les peuples, parce que là, ils empêchent les peuples de venir adorer le seul vrai Dieu. C'est intéressant de penser aussi que les Juifs s'attendaient, lorsque le Messie allait venir, qu'il allait attaquer les païens, et puis qu'il allait attaquer les Romains, puis finalement, il allait reprendre le contrôle de leur pays, puis être, une phrase qu'on connaît bien au Québec, là, être maître chez eux. Mais finalement, la première intervention que le Seigneur Jésus fait lorsqu'il débute son ministère, c'est qu'il attaque son propre peuple pour leur dire, « Regardez ce que vous faites. » Vous agissez d'une manière qui empêche tous les païens de venir vers Dieu. Vous agissez d'une manière incrédule. Vous ne servez pas le seul vrai Dieu dans la manière que vous avez que vous utilisez le temple. Donc, ils confrontent leur incrédulité par le fait qu'ils leur démontrent qu'ils utilisent le temple d'une mauvaise manière. Jean va nous dire que les disciples se rappellent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Est-ce qu'ils se sont rappelés là, au moment qu'ils ont vu ça, ou plus tard? Moi, je pense qu'ils ont tous réalisé beaucoup plus tard des choses que le Seigneur Jésus faisait, mais ils se sont rappelés. Puis Jean certainement s'en rappelle parce qu'il va l'écrire, « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est une citation du psaume 69, le verset 10. Et c'est l'un des 6 psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament. Vous savez, les psaumes sont abondamment cités dans le Nouveau Testament. Mais celui-là, c'est un des 6 psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament. C'est un psaume de David qui exprime comment il est ridiculisé, qu'on l'outrage, qu'il porte l'opprobre. L'opprobre, ça veut dire qu'il est publiquement humilié à cause de son amour pour Dieu et de son attachement au temple. C'est exactement ce que le psaume David exprime, c'est exactement la même chose que le Seigneur Jésus sent, vit, lorsqu'il voit tout ce commerce-là qui se fait dans le temple. Ça le touche profondément, ça consomme sa force, ça affecte ses émotions, ça l'affecte toute sa personne. Pourquoi? Parce que le Dieu n'est pas honoré par les Juifs dans le temple, par leur commerce, ce qu'ils font. Quelqu'un écrit que c'est à ce moment que l'on sait qu'on est spirituellement mûr, lorsque Dieu est déshonoré et que l'on ressent la douleur. Et le Seigneur ressentait cette douleur-là. D'ailleurs, il devait le ressentir à toutes les années qui y allaient, mais là, il va vraiment intervenir parce que c'est le début de son ministère. Donc, les Juifs vont aussi confronter le Seigneur Jésus puis vont lui demander un miracle pour justifier ses actions. Et puis, dans sa réponse, puis il va leur donner effectivement un signe, le Seigneur va confondre leur incrédulité. Et dans un sens, les Juifs avaient quand même raison de dire au Seigneur, « Bien, écoute, tu sais... Prouve-nous ou démontre-nous que ce que tu fais, là, tu as raison de faire ces choses-là. » Il y avait quand même une autorité pour s'occuper que ça marche bien dans le temple. Malheureusement, il faisait mal, mais il s'en occupait. Mais quand il leur demande ça, une des choses intéressantes qu'on constate, c'est qu'ils sont plus préoccupés par l'aspect légal. Démontre-nous comment tu agis de la sorte. T'sais, autrement dit, tu n'as pas raison de faire ça, tu n'as pas l'autorité de faire ça, c'est nous qui avons l'autorité dans le temple. Donc, ils sont plus affectés par l'aspect légal de la chose que l'aspect spirituel, pourquoi le Seigneur Jésus fait ces choses-là. Dans un sens, les paroles du Seigneur Jésus ou ce qu'il a fait, ça ne pénètre pas en eux, ça ne leur démontre pas, ils ne prennent pas conscience qu'ils utilisent mal le temple. Puis, ils ne sont pas vraiment sincères dans leur demande d'un signe. Puis, on va le voir, parce que ce n'est pas la première fois que les Juifs vont demander au Seigneur Jésus un signe. Puis, le Seigneur sait que même s'il fait un signe, ça ne marchera pas. Parce qu'il sait qu'ils ne sont pas sincères dans leur demande d'un signe. D'ailleurs, il leur demande un signe particulier, dans un sens, il leur demande un signe qui démontre que tu peux agir de la sorte. Fait que ça ne devait pas être n'importe quoi, ça devait être quelque chose. Ils ne sont pas précis, ils ne disent pas quoi, mais il faut que ça nous démontre sans l'ombre d'un doute que tu peux agir de cette manière-là. À plusieurs reprises, comme je vous disais tout à l'heure, on demande un signe au Seigneur Jésus pour croire en lui. En Jean 6, il a nourri une foule de 5000 personnes, il a marché sur les eaux. Ça, ils ne l'ont pas vu, marcher sur les eaux. Mais ils savent qu'il est parti d'un endroit à un autre puis qu'il n'y avait plus de barque. Fait qu'ils se sont quand même posé la question, comment est-ce qu'il a fait pour se rendre ici? Hein? Donc, il nourrit ça. Puis, après ces miracles-là, on lui demande, « Quel miracle fais-tu donc, lui leur dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? » Comme si nourrir 5000 personnes, ce n'était pas suffisant comme miracle. À une autre occasion, les pharisiens et les sadducéens l'abordent pour l'éprouver puis lui demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. C'est quand même intéressant parce que là, il précise. On veut te voir faire un signe, mais c'est un signe qui descend du ciel. Encore là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils s'attendent, mais c'est un petit peu plus précis. Dans tous les miracles qu'on lui a demandé de faire, le Seigneur Jésus n'a jamais répondu aux demandes des gens. Hein? Et dans un sens, on ne peut pas domestiquer Dieu. Hein? Hein? On ne peut pas demander à Dieu, montre-nous tes talents de magicien. On n'a pas de raison de vouloir amener Dieu à notre niveau, puis là, qu'il se prouve lui-même. D'ailleurs, dans les Écritures, Dieu ne se prouve pas. Hein? Dieu dit qu'il est. Et souvent, dans ce qu'on voit aussi, les gens où le Seigneur Jésus n'est pas venu prouver l'existence de Dieu, il est venu seulement manifester Dieu parmi les hommes, puis accomplir ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on le demande, lorsque justement ces Juifs-là lui demandent de faire un signe venant du ciel, le Seigneur Jésus leur fait un reproche. Il leur dit, « Vous pouvez prédire le temps en regardant le ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vous n'avez pas de discernement spirituel. Vous avez un discernement pour prédire qu'il va neiger, puis qu'il neige, mais vous n'êtes pas capable de prédire spirituellement les signes des temps. Mais il leur donne un signe pareil. Je vais vous donner un signe. Je vais vous donner un signe, c'est celui de Jonas. Puis le texte de Marc 16 nous dit, « Puis il les quitta et s'en alla. » Vous savez, moi je reste convaincu qu'il n'y a aucun miracle qui peut convaincre un homme incrédule. Aucun miracle. Dans notre passage ici, à la demande d'un signe, le Seigneur leur répond, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » C'est le signe qu'il leur donne. Et eux, là, ils comprennent ça d'une perspective terrestre. On a fait allusion à Nicodème. Nicodème a fait exactement la même chose. Hein. Lorsque le Seigneur Jésus lui dit, « Il faut naître de nouveau », la première pensée qu'il a, ben, il dit, « Je suis vieux, je ne peux pas naître. » C'est les bébés qui naissent. Puis après ça, c'est impossible que je retourne dans le sein de ma mère pour renaître. Ça ne se peut pas. T'sais. Fait que les Juifs ont la même réaction. Hein? Et d'ailleurs, ça a marqué leur imaginaire. Là, puis je vois le temps passe, je vais vous le dire rapidement. Lorsqu'on essaye de trouver une raison d'accuser le Seigneur Jésus, on l'accuse d'avoir dit... je détruirai ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Mais ils ont tordu les paroles du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Regardez ce que le Seigneur dit ici. « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Il leur dit, « Vous, détruisez le temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs, ils le tordent, ils ont dit, « Je vais détruire le temple. » Le Seigneur Jésus jamais a dit qu'il allait détruire le temple. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils ont mal compris ou ils veulent mal comprendre ce que le Seigneur Jésus dit. Mais ils vont quand même l'accuser d'avoir dit ça. Même quand il est sur la croix, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Et même plus tard, lorsqu'on accuse Étienne, on va dire que cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes de Moïse. Mais le Seigneur n'a jamais dit ça. Hein? Même après tant d'années, on persiste parmi les Juifs à dire que le Seigneur Jésus a dit qu'il allait détruire le temple. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. D'ailleurs, Jean, il ajoute une note explicative au verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. » Et ce corps-là qu'il a pris lorsqu'il est venu sur la terre, ce qu'on voit dans le chapitre 1, dans le prologue, « La parole a été faite chair », il est venu habiter parmi nous. Puis c'est intéressant ce petit mot « habiter-là ». Littéralement, ça veut dire « fixer sa tente ». On pourrait inventer un mot, puis traduire de la manière suivante, « Elle est venue tabernacler parmi nous ». Parce que le tabernacle, c'était une tente. Naturellement, lorsqu'on l'a construit d'une manière permanente, c'était plus une tente, mais à l'origine, c'était une tente que les Juifs traînaient avec eux. Donc, Jean, déjà là, au début, fait l'allusion que le Seigneur Jésus est venu revêtir, est venu habiter parmi nous dans une tente. Son corps, c'est une tente pour habiter parmi nous. Donc, le Seigneur Jésus utilise un langage voilé et énigmatique. Puis, il fait ça souvent. Toutes les paraboles, c'est la même chose. Dans les paraboles, c'est de dire des choses d'une manière voilée et énigmatique. Pour parler de son corps, puis qu'il est en train de dire aux Juifs, « Détruisez ce corps, et en trois jours, je le relèverai. » De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Bien, ce qui va arriver plus tard, naturellement. Donc, on examine ça... Donc, pour eux, les Juifs, quand le Seigneur dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours », leur attention ne s'arrête pas sur le fait que le Seigneur leur demande de détruire le temple, mais sur l'impossibilité de tout reconstruire en trois jours. C'est ça qui les arrête. Et vous savez, Flavius Joseph est un historien juif du 1er siècle, puis il nous dit que le temple a commencé à être construit dans la 18e année d'Hérode le Grand, donc entre 18 et 19 avant Jésus-Christ. Et n'est pas achevé avant le règne d'Hérode Agrippa en 63 après Jésus-Christ. Donc, au moment où est-ce que le Seigneur Jésus est dans le temple, puis que les Juifs regardent tout ça, ça fait 46 ans qu'on construit le temple et on ne l'a pas fini encore. On va le finir beaucoup plus tard. Mais là, ce n'est pas tout à fait fini. Donc, les Juifs sont en train de lui dire que les travaux sont en cours depuis 46 ans, puis ce n'est pas terminé, puis toi, tu vas le rebâtir, toutes ces structures-là, en trois jours. Fait que ce qu'il est en train de dire, puis ils n'ont pas tort, c'est ce que tu dis, c'est ridicule. Ça ne se peut pas. Ça ne se fait pas. Ça a pris 46 ans, puis regardez où est-ce qu'on est. Là, aujourd'hui. Et il faut quand même regarder, lorsque le Seigneur Jésus dit « détruisez ce temple », ils sont là dans le temple. Mais le Seigneur Jésus utilise un terme pour désigner le sanctuaire. Il ne parle pas de toutes les installations. « Détruisez le sanctuaire », la tente de l'Ancien Testament, c'est ça qu'il leur dit. Il fait référence au sanctuaire et non à tous les bâtiments. Et c'est cette destruction-là qui parle, et naturellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'allusion qu'il fait, c'est sa tente à lui, le fait que lui, il est sur la terre. Donc, de « mettez-moi à mort et en trois jours, je vais ressusciter », c'est ça qu'il leur dit. Mais même les disciples n'ont pas compris à ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Ils vont le comprendre plus tard, Donc, les Juifs pensaient à la reconstruction du temple, bien qu'ils utilisent le terme de sanctuaire, mais ce mot-là est intéressant à relever, parce que ça peut servir à exprimer deux choses, je le relèverai en trois jours. La première chose, c'est naturellement élever ou ériger ou construire un immeuble, mais ça peut vouloir aussi dire réveiller du sommeil de la mort, donc relever de la mort. Et c'est à cette chose-là que le Seigneur Jésus fait allusion. Il parle de sa résurrection après le troisième jour. Et ça, c'est vraiment une des marques de la prédication des premiers chrétiens, il mettait beaucoup d'emphase sur cette question-là. Hein. Dans son premier sermon à la Pentecôte, Pierre va affirmer que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle soit retenue par elle à Corneille. Pierre va leur dire aussi, nous sommes témoins de tout ce Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant à bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Finalement, c'est aussi le signe de Jonas. Hein, lorsqu'il leur donne dans Matthieu 16 le signe de Jonas, bien, Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le poisson. C'est le même signe. Et dans un sens aussi, quand le Seigneur Jésus a été mis à mort, on sait que le voile du temple a été déchiré. Hein? Et cette déchirure-là, on le comprend, c'est comme Dieu leur dit, maintenant c'est fini. Hein? Le temple de l'Ancien Testament, les sacrifices, tout ce qui était de la religion juive, c'est fini. Fait qu'à ce moment-là, c'est dans un sens la fin du temple, hein? La fin de l'Ancienne Alliance. Le temple n'est pas détruit physiquement, mais il va être détruit dans ses institutions lorsque le Seigneur Jésus est mis à mort, puis plus tard ressuscite, et puis elle est signifiée par la déchirure du temple. Naturellement, le temple va être détruit, complètement détruit en l'an 70, donc 7 ans après qu'elle a été finie de construire toutes les installations, ils vont être complètement détruits. Puis le Seigneur l'a prédit aussi dans Luc 21, ça s'est réalisé parce que les Juifs ont complètement détruit le temple. Puis aujourd'hui, lorsque les Juifs à Jérusalem prient au mur de lamentation, c'est pas un mur du temple, c'est un mur de soutènement pour qu'on soit capable d'avoir un espace pour construire le temple. Mais c'est pas le temple. Et vous savez pourquoi les Romains ont complètement détruit le temple? Parce qu'il y avait de l'or dans le temple, puis ils voulaient tout récupérer. Donc, en voulant tout récupérer, ils ont complètement tout détruit. Paul va dire aux Éphésiens que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes et qu'elle s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et l'Église, elle est un temple aussi. Paul utilise ce symbole-là pour l'Église. Pourquoi? Parce que nous, on est maintenant le temple du Saint-Esprit, puis on forme l'Église. Seigneur va dire à la femme samaritaine qu'on n'a plus besoin, tu sais que les Juifs, comment il va dire ça? Crois-moi, l'heure vient où cela ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, puis les Jérusalem, c'est l'endroit où le temple est, que vous adorez le Père, mais l'heure vient où elle est venue. Puis là, le Seigneur en disant ça, il est venu, pourquoi? Parce que lui est là, Dieu est venu habiter parmi nous, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Donc, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, c'est qu'on n'aura plus besoin du temple pour adorer dorénavant. Il lui dit déjà d'avance, tu sais, que ça ne sera plus nécessaire. Donc, Jean nous dit qu'ils n'ont pas compris encore, ce qui vient d'être dit, mais c'est juste après sa résurrection qu'on comprit, qu'ils se sont souvenus des paroles, puis ont reconnu que c'était conforme aux Écritures. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait dit? Il va confirmer leur incrédulité au verset 23 et 25. Naturellement, son intervention dans le temple, puis les miracles, et tous les miracles et les signes qu'il va faire pendant son ministère, dont Jean va prendre au moins 7 de ces signes-là pour le relater dans son évangile, c'était pour démontrer qu'il était vraiment Dieu fait homme. C'était pour démontrer ou manifester sa divinité. Et Jean nous dit que lorsque des gens ont vu ces miracles-là, parce que ça nous est quand même dit que pendant qu'il était là, pendant la fête, il a fait aussi plusieurs miracles. Jean nous dit que plusieurs crurent en son nom. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est dit au verset 24, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Donc, ce qu'on pourrait lire, c'est que le Seigneur n'avait pas foi dans leur foi. Quand c'est écrit, il ne croyait pas en lui, mais lui, quand c'est écrit, ils croyaient en lui, mais littéralement, lui ne croyait pas en eux. Il ne croyait pas dans la foi qu'eux exprimaient. Bien, pourquoi? Bien, la foi que ces gens-là avaient, c'était une foi dans ce qu'ils avaient vu. C'était le produit de leur étonnement quand on voit ces prodiges-là. Ils étaient frappés par les miracles eux-mêmes. Et une foi qui repose sur les signes miraculeux seulement, c'est une foi précaire. Et ce n'est pas la seule foi où est-ce qu'on va voir, foi, F-O-I-S, là, où est-ce qu'on va voir des gens qui professent une foi, mais finalement que ce n'est pas vrai, que c'est une foi superficielle. Ces miracles-là, ces signes-là devaient amener les gens à regarder à celui qui les faisait, à avoir foi non dans les miracles, mais dans la personne qui faisait les miracles. Puis le Seigneur était capable de discerner ça. Dans Jean 10, il va affirmer sa divinité, puis on veut le lapider. Puis écoutez ce qu'il va leur dire. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, » ça c'est tous les signes qu'il a fait, « ne croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres. » Mais pourquoi il leur dit « croyez à ses œuvres »?« Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Donc, toutes ces œuvres-là devaient les inciter à croire ce que Jésus affirmait, qu'il était Dieu. Et c'est exactement pourquoi Jean écrit son évangile. Il va dire que ces signes ont été faits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Une foi qui s'appuie sur autre chose que la personne de Jésus n'est pas la foi, même si on dit croire à son nom. C'est ce que Seigneur Jésus avait discerné. Godet va écrire que Jésus n'est pas plus ébloui par le succès apparent de ceux qui croient en son nom, puis le Seigneur a pu dire « Ah, c'est le fun! » Beaucoup de gens croient en moi, mais il n'est pas ébloui de ça, pas plus qu'il n'est découragé par le revers qu'il a essuyé dans le temple, quand les Juifs l'ont critiqué puis lui ont dit « Tu ne devrais pas faire ça. » Et Jean nous explique pourquoi, parce qu'il les connaissait tous, verset 24, à la fin du verset 24, parce qu'il sait lui-même ce qui est dans l'homme, la fin du verset 25, sans qu'il ait besoin, il n'a pas besoin de l'avis de personne, il n'a pas besoin qu'on rende témoignage de personne, lui-même le sait. Et même nous, lorsqu'on va parler de quelqu'un, moi je connais cette personne-là, puis je le sais qu'il est de telle et telle manière, mais tu sais, le témoignage qu'on rend d'une personne, c'est toujours limité. On ne connaît pas une personne assez intimement pour être capable de dire des choses totalement et toutes vraies de elle. On parle d'une manière imparfaite de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, quand on a parlé avec lui. Mais le Seigneur Jésus savait parfaitement ce qui est dans l'homme. C'est exactement ce que David va exprimer dans le psaume 139. Et comme on a vu dans les chapitres précédents, il connaît Nathanaël même avant de l'avoir vu. Il sait qui est Pierre et même d'où ce qui vient, puis de toute sa famille avant qu'il lui ait parlé. Et dans un sens, c'est réconfortant de savoir que le Seigneur nous connaît et qu'il connaît ses brebis. C'est vraiment réconfortant, mais d'un autre côté, c'est quand même assez... Ça ne peut pas ne pas venir nous chercher de savoir que Dieu nous connaît tel qu'on est. Et on peut dire aux Juifs, mais ils n'ont jamais cru, tu sais, veut dire, eux, ils n'ont jamais cru, puis nous, on a cru, mais faisons attention. Tu sais, c'est le même Dieu qui nous connaît, nous, ses brebis, et puis qui connaît tous les hommes. Puis moi ça me réconforte, mais aussi ça vient me chercher, tu sais, de savoir que Dieu me connaît de cette vraiment manière-là. Et Jean va démontrer à tout au long de son évangile comment les Juifs ont été incrédules. Ça va finir au chapitre 12 avec ces choses-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui surprend le Seigneur. Et puis, lorsque le Seigneur vient vers son peuple, c'est pour vraiment être la vérité. Et puis, leur démontrer où ils en sont rendus comme peuple de Dieu, puis comment ils sont devenus incrédules. Et puis, marcher dans la vérité, même pour le croyant, c'est la même chose. Hein? Si on est honnête, je veux dire, le Seigneur va aussi nous montrer où on en est rendu comme croyant. Les choses qu'on doit changer dans notre manière de voir, puis dans notre manière de vivre les choses. Et puis, il va le faire par l'étude, par la lecture de sa parole. Donc, moi, j'ai de la difficulté à mettre un gros anathème sur les Juifs. C'est malheureux qu'ils n'ont pas reçu le Messie, mais faisons attention de ne pas avoir un cœur similaire à eux. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces textes. Et merci pour l'apôtre Jean, c'est vraiment rafraîchissant de le lire et comment il expose les choses qu'il a vécues lui-même et puis qui sont vraiment importantes pour chacun d'entre nous. Puis on ne veut pas se sentir supérieur à personne. Tu connais nos cœurs, tu connais chacun d'entre nous. Qu'on ait vraiment ce désir-là de marcher d'une manière honnête et humblement devant notre Dieu. Amen.